Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Neuvième partie, la colère. Suite et fin.
Nous allons reprendre notre étude sur le sermon sur la montagne. Nous allons le terminer aujourd'hui. Et le sujet que nous avions abordé précédemment, eh bien, c'était le sujet de la colère. Je rappelle le texte de référence. C'est donc dans Matthieu, chapitre 5, verset 22, où Jésus rappelle et nous dit ceci. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre. » Alors, la colère, c'est quoi? Ce sont des questions que nous avions vu précédemment. Pourquoi se mettons en colère? Ce que dit la parole de Dieu de la colère, nos réactions typiques à la colère et quelles sont les solutions devant nos colères et celles des autres. J'apporterai une simple anecdote. Quelqu'un disait un jour « J'explose, mais ça ne dure jamais plus d'une minute. » Et un autre de lui répondre ceci, c'est aussi le cas de la bombe atomique. Mais pense aux dévastations qu'elle occasionne. C'est très bien que la bombe atomique, c'est une déflagration et une désintégration, et on peut s'imaginer en moindre mesure que la colère, eh bien, c'est aussi une explosion qui peut véritablement faire du mal, beaucoup de mal, autour de nous et puis également à soi-même. Les principaux symptômes de la colère, nous allons en citer trois tout simplement. Le point d'allumage est le caractère. Alors, il y a des tempéraments que nous pourrions définir de sous-pôlés. Il y a d'autres qui sont des tempéraments incontrôlables. Et puis, il y a les rancuniers. Alors, quant aux sous-pôlés, eh bien, ce sont des gens qui cherchent des occasions de conflit. Et les moindres sujets sont disproportionnés. Un rien, une petite chose, vire au drame. C'est un problème de fréquence, hein, c'est-à-dire que ça leur arrive souvent. Quant aux incontrôlables, eh bien, leurs agitations n'est peut-être pas tous les jours, mais ce sont des gens qui sont très violents et qui sont dévastateurs. C'est un problème d'intensité. Quant aux rancuniers, dont les colères sont rares, mais lorsque le couvercle de la cocotte minute est enlevé, attention, le règlement de compte vengeur n'est pas loin. La riposte est implacable parce que la substance toxique a longtemps incubé. Et c'est du poison et du venin. C'est un problème de durée. Je rappelle, les personnalités sous-pôlées, c'est un problème de fréquence. Les incontrôlables, c'est un problème d'intensité. Et en ce qui concerne les rancuniers, c'est un problème dans la durée. Le problème est celui de la durée. Les raisons de la colère, il y a des points communs à tous. C'est l'égoïsme et l'impatience. J'aimerais citer également quelques raisons. La violation des droits, nous pouvons nous mettre en colère parce que nous voyons qu'il y a eh bien là des violations de ce qui est normal et qui n'est pas respecté. Il y a les déceptions de la vie, toutes les contrariétés que nous pouvons connaître dans l'existence. Ce peut être également nos objectifs non atteints. Je pense aux échecs de la vie. Également les irritations, toutes ces petites gênes et ces embarras qui peuvent quelquefois nous amener à l'insupport. Ce sont également se sentir humilié, ridiculisé, volé. Ce sont des situations qui sont blessantes. Il y a également les attentes irréalistes quand nous mettons la barre trop haut, et peut-être que le problème de fond, c'est un problème de fierté et d'orgueil. Et puis, peut-être plus compréhensible, les souffrances physiques et les souffrances morales qui amènent parfois à l'exaspération parce que nous ne supportons pas eh bien, la douleur et la souffrance. Après un accès de colère libéré, nous nous sentons mieux. Toutefois, nous avons le devoir d'être intelligents de la manière dont nous y parvenons. Extérioriser, d'accord, mais en se donnant les moyens de ne pas porter atteinte à personne, ni à ses biens, c'est-à-dire casser, sans laisser, après nos explosions, un champ de ruines incendié. Pour passer nos nerfs, il conviendra de se mettre un peu à l'écart, de vaquer à une tâche quelconque qui nous procurera le temps nécessaire de retrouver son calme et la réflexion de bon sens, se donner à quelques travaux physiques autant d'excellents moyens pour évacuer les mauvais sentiments. Refouler sa colère signifie le refus d'admettre que l'on est fâché, feindre d'eux, car très souvent le chrétien pense que se mettre en colère, c'est forcément péché. Précisons une chose, la colère devient péché quand nous ne nous contrôlons plus et nous pousse à dire et à faire n'importe quoi. Or, la colère nous enseigne la parole de Dieu, fait partie de notre humanité. C'est un sentiment très humain qu'il faut savoir gérer. Alors, le refoulement systématique est quelque chose de malsain, principalement pour soi. On sait aujourd'hui qu'un grand nombre d'ulcères de l'estomac et autres ont pour origine des colères refoulées. Lorsque nous tentons sans cesse de fuir la réalité de nos colères entretenues, celle-ci risque de faire de nous des êtres rigides et froids, ou encore des critiques invétérées, des caractères irritables. Canaliser la colère, mais jamais l'ignorer, ce doit être une règle pour chacun d'entre nous. Reconnaître la colère, en d'autres termes, avouer sa colère, c'est lui permettre de s'extérioriser tout en la canalisant ou en déterminant la cause. La technique est la suivante, apprendre à désamorcer notre irritation en reconnaissant que la moutarde, c'est ce que l'on dit, c'est une expression que nous connaissons bien, que la moutarde nous monte au nez et en avertissant notre interlocuteur avant de perdre le contrôle de nos sentiments et propos, qui se traduit par « si vous vous mettez en colère » et nous reconnaissons un texte du Nouveau Testament, « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas en gardant rancune et dépêchez-vous de vous calmer, car par la colère, vous donnez facilement prise au diable. » Nous reconnaissons que nous sommes toujours responsables de nos réactions émotionnelles vis-à-vis des autres. Nous sommes souvent en colère pour des motifs qui ne se justifient pas. Nos mauvais sentiments se manifestent en blessant autrui. Parfois, les raisons qui alimentent nos colères sont l'esprit critique négatif, un état d'animosité, alors on s'en prend aux autres chez lesquels, où l'on trouve toujours quelque chose à redire. C'est le malin plaisir de relever leurs fautes, à souligner leurs faiblesses. Dans nos dispositions intérieures inavouées, nous sommes candidats à l'emportement. Reconnaissons sans détour que nous sommes vecteurs d'hostilité dans notre entourage. L'apôtre Jacques, au chapitre 3, nous dit ceci, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Et puis également, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Voilà ce que la Bible affirme par rapport à notre manque de maîtrise de nous-mêmes. Colère et critique sont sœurs jumelles, et j'aimerais donner une simple explication sur le sujet. Faire la différence entre l'esprit critique et la pensée critique, c'est important parce que parfois nous ne faisons pas le distinguo. L'esprit critique est un état d'esprit qui vise à rabaisser ou à humilier autrui. C'est une permanence, une habitude, une tournure de pensée et voir les autres. Rien n'est bon, tout est condamnable et il y a naturellement dans cette démarche qui s'exprime par ce que nous pensons et que nous exprimons quelque chose de profondément négatif, quelque chose qui ne construit pas. La pensée critique, par contre, est circonstancielle et éclairée. Elle est avisée et bienveillante. Elle est utile pour corriger, pour redresser, rétablir, aider à la vérité et à la justice. Elle affûte l'intelligence et le raisonnement. Elle examine les faits objectivement. Elle fait progresser et témoigne de l'amour et de l'intérêt du bien des autres. Voilà la colère et la critique. Il est révélateur qu'en jugeant les autres, nous claironnons à notre insu nos propres fautes secrètes. Il arrive que nous haïssons chez nos semblables les péchés auxquels nous sommes nous-mêmes attachés et brisons le miroir. Il y a une différence également à souligner. Il y a notre moi réel et notre moi affiché. Devant les autres, eh bien, nous avons souvent l'attitude du moi affiché. Nous voulons paraître bien, mais ce que Dieu regarde, eh bien, c'est notre moi réel. Il se trouve que nous dénoncions avec véhémence des fautes vues ailleurs, lesquelles fautes que nous nous pardonnons complaisamment parce qu'elles sont pour nous ce que l'on appelle des péchés mignons. Dans nos préjugés, nous faisons preuve d'intolérance, de critiques sévères et iniques envers celui en qui nous découvrons une réplique de nos propres sentiments ou caractères. Que la colère explosive ou son contraire, la colère rentrée, ne nous serve pas de paravent et prétexte, mais de nous dire « Tu es aussi cet homme-là ». Souvenons-nous de l'histoire de David et de Nathan, une histoire fameuse qui nous est rapportée dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, versets 5 à 7, où, pour ceux qui connaissent bien, eh bien cette situation, il nous est dit que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. » On se souvient du péché de David lorsqu'il a fait assassiner cet officier, son soldat, qui s'appelait Uri, et dont David avait pris sa femme pendant que Uri était à la guerre. Et dans une petite parabole, une petite histoire, eh bien, le prophète Nathan est en train de lui rappeler, alors que David est en train de juger sévèrement, qu'il se met en colère contre le personnage de la parabole, eh bien, le prophète lui dira « Mais tu es cet homme-là ». Ça, c'est le moi réel qui est mis devant David, c'est son moi réel. Ne nous donnons pas ce prétexte trop facile pour s'excuser, comme nous l'entendons très souvent, c'est ma nature. Cela ne se justifie jamais, qui plus est pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Galates, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, entendez, la colère. » Mais par contre, quelques versets plus loin, il est parlé des fruits du Saint-Esprit dans Galates. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Retenons les mots forts. Amour, paix, patience, bonté, douceur, maîtrise de soi. Le problème dans les colères humaines, c'est que nous manquons d'amour. Nous ne sommes pas toujours des vecteurs de paix. La patience n'est pas notre propre. Nous avons peut-être là une difficulté à la douceur, au contrôle de nous-mêmes, donc la maîtrise de soi. Il y a deux types de réactions. Il y a les mauvaises réactions qui sont maladroites et enveniment le conflit. Et puis il y a les réactions positives. Celles-ci nous invitent au contrôle de soi-même et de cesser de croire que nous avons toujours raison et que l'autre, forcément, a tort. Il y a parfois dans nos emportements ou dans nos réactions vives un manque d'intelligence et d'ouverture d'esprit. À ne pas menacer, à humilier, à faire étalage d'une prétendue supériorité dans un but d'écraser l'autre, de le neutraliser ou de lui faire peur. Cela s'appelle de l'orgueil pur et simple. Pour être honnête, il faut savoir reconnaître que très souvent ou parfois dans nos emportements, on est fatigué. on est énervé, on est pressé. Et nous avons besoin de réfléchir au pourquoi de nos humeurs, savoir admettre nos points faibles, nos complexes d'infériorité, nos faiblesses. Apprendre à partager nos émotions et sentiments sans interprétation hasardeuse, sans jugement ou procès d'intention. À ne pas envoyer une volée de reproches, et toutes ces choses n'ont rien à faire, eh bien, dans le conflit. Savoir lorsque le ton monte, savoir s'arrêter à temps pour reprendre plus tard, dans des conditions plus propices, la discussion. C'est une question de sagesse. Puisque nous l'avons lu tout à l'heure, lequel d'entre vous est sage et intelligent, eh bien, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur, tout simplement, de la sagesse. Si nous sommes enclins à nous emporter, la colère n'est pas la solution. Ainsi, le chrétien a tout intérêt, quand il en a conscience, d'en faire un sujet régulier de prière pour être délivré. Quelqu'un qui communique sainement est capable d'exposer son point de vue, d'expliquer ses attentes, de prêter l'oreille aux remarques d'autrui et en tenir compte calmement, sans emportement. L'apôtre précise dans l'épître, c'est Jacques qui nous dit ceci au chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » En conséquence, je veux donc, écrira l'apôtre Paul cette fois-ci, « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Par ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, 25-26, il est dit « Mais c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alors, la colère, et je termine sur ce dernier point. Il y a quelque chose d'intéressant dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 33. Écoutez, c'est assez original comme présentation, parce qu'il est question de la colère. Il est dit ceci, « Car la pression du lait produit la crème, ou produit de la crème. La pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit, on s'en doute, des querelles. » Dans Éphésiens, en rajoutant ceci, chapitre 4, 26-31, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ce qui veut dire que ce qui est bon devient excellent. Je rappelle, la pression du lait produit de la crème, ou du beurre si vous voulez. Sous la pression de la main de Dieu, que si l'humiliation n'est pas produite naturellement par la grâce, ce sera le châtiment qui la produira, c'est-à-dire le sang. La pression du nez produit du sang. Enfin, que toute pression exercée sur la chair par des moyens, attitudes et réactions de la chair ne peut produire que des résultats, charnels, ou dans cette troisième proposition, la pression de la colère produit des querelles. Et ce n'est certainement pas avec une manifestation, une explosion de colère que nous allons apporter la paix, que nous allons apporter l'apaisement et des solutions à nos conflits ou à nos difficultés. Telle est la colère de l'homme et ses implications au regard de Dieu et au regard des hommes. Nous allons simplement nous courber, remercier Dieu pour sa parole, pour cette exposition du sermon sur la montagne et demander au Seigneur qu'il nous aide en tout cela. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour toute cette étude. Merci parce que nous croyons qu'elle nous implique, elle nous interpelle, elle nous donne tout ce qui est nécessaire, Seigneur, pour vivre selon ta volonté. Selon ta volonté qui sera, qui demeure, toujours, eh bien la meilleure pour nous. Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes des êtres fragiles, des êtres vulnérables. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes enfermés dans un corps. Nous sommes enfermés, Seigneur, dans une âme qui est parfois malade, qui manque d'équilibre. Eh bien, Seigneur, nous te demandons ton secours et ton aide. Tu visites, Seigneur, tous ceux qui sont auditeurs de cette parole, lecteurs, en effet, de ce message de l'Évangile. Alors tu les bénis. Tu nous bénis tous ensemble, Seigneur, et tu nous donnes de progresser. Tu nous donnes de croître dans ta connaissance. Tu nous donnes de croître dans la manière de vivre ta parole, de vivre dans la grâce, de vivre dans la foi, Seigneur, parce que nous, souvent, nous sommes déconcertés, non par les réactions des autres, mais nous pouvons parfois être déconcertés souvent par nos propres réactions, que nous n'arrivons pas à maîtriser, que nous n'arrivons pas à juguler, et qui parfois, Seigneur, nous humilie profondément. Mais Seigneur, nous savons une chose, que tu n'es pas venu, Seigneur, pour nous condamner. Tu n'es pas venu pour, eh bien, Seigneur, tout simplement nous juger. Mais tu es venu pour que nous-mêmes, nous portions une attention sur ce que nous sommes. Nous portons une attention sur ce que tu nous dis. Nous portions une attention sur le modèle de Jésus. Sur, en effet, ce que tu nous as laissé de précieux, parce que ta parole est un véritable trésor. Et que cela, Seigneur, devant, en effet, Père éternel, nos manques de maîtrise, devant, Seigneur, nos manques de douceur, nos impatiences, nos manques de considération, Seigneur, pour autrui, eh bien, nous apprenions. En effet, en t'associant, en te remettant, c'est vrai, Seigneur, à la fois nos corps, nos impulsions d'âme, nos sentiments parfois désordonnés, et puis notre esprit. Alors, à ce moment-là, Seigneur, nous croyons que ta grâce, la sagesse dont nous avons parlé, l'intelligence dont, en effet, Seigneur, qui est une intelligence qui vient d'en haut, intelligence divine, nous apporte, nous apportera, nous conduira, nous fortifiera et nous donnera, Seigneur, d'être ce que toi tu désires que nous soyons, c'est-à-dire à l'image de Jésus, qui a pu véritablement, Seigneur, eh bien, traverser cette vie, connaître, Seigneur, toutes les difficultés des hommes, à travers, Père éternel, ce que le péché, à travers ce que le mal, eh bien, a endommagé considérablement. Mais tu n'es pas venu, Seigneur, pour détruire. Tu es venu pour reconstruire. Tu n'es pas venu pour démolir. Tu es venu pour édifier. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et cette simple prière, c'est cette prière, Seigneur, que nous t'adressons maintenant pour que tu nous donnes, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, eh bien, en effet, à devenir des hommes et des femmes matures, à connaître la stature de l'homme fait en Jésus-Christ, à rentrer dans cette maturité. Et nous savons, Seigneur, que tu le fais. Tu le fais dans le temps. Tu le fais avec ce que nous te permettons. Tu le fais, Seigneur, en te servant souvent, Seigneur, de nos échecs, pour que nous recommencions, que nous puissions te faire confiance. Parce que nous croyons, Père éternel, tant que nous nous plaçons, Seigneur, dans la disposition de la loi et sous l'égide du légalisme, alors à ce moment-là, nous n'y arriverons jamais, parce que nous ne faisons que tout simplement de répandre de l'essence sur un incendie. Mais lorsque nous comprenons, Père éternel, que nous ne pouvons y arriver nous-mêmes, alors à ce moment-là, Seigneur, tu viens à notre secours. Lorsque nous t'abandonnons, en effet, notre vie, complètement et totalement, alors nous te remercions et nous te bénissons dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Bénis, mes amis, bénis, en effet, tous ceux et celles qui lisent ta parole, qui écoutent ta parole et donnent-leur une saine et juste compréhension. Merci, notre Dieu, à travers Jésus-Christ. Amen.